Pronto, pronto, pronto.
Mais non, ce n'est pas Cédric Canale. Encore aujourd'hui, il est encore absent. Vous savez comme il est, il bourlingue à travers l'Europe. Mais plus pour suivre l'Inter en Ligue des Champions. C'est Antonin Yellow. Aujourd'hui, j'ai mes deux petits compères pour ce numéro 75 de Pronto Calcio. J'ai d'abord mon petit Raphaël. Comment ça, mon petit Raphaël Gauthier?
Bah écoutez, ça va, et vous, un peu malade par ce changement de temps soudain. Mais ça va, on tient son rang pour parler de Serie A.
Moi, je pense que c'est les risques que tu prends quand tu vas voir Nancy en Courva avec une pluie et 5 degrés.
Ça, c'est bien possible pour assister à un 2-2 en National un vendredi soir quand il fait pas très beau, effectivement. Je crois que je suis puni.
Et on a aussi notre petit nouveau qui nous rejoint de plus en plus et qui, j'espère, viendra de plus en plus souvent en cette fin de saison et la saison prochaine, monsieur Tristan Pubert, qui est notre petit journaliste de SoFoot. Comment ça va, mon petit Tristan?
Ça va super. Victoire du Milan, donc ça peut qu'aller bien. Mais comme a dit Raphaël, moi, ça, j'ai été un peu épargné pour le moment par toutes sortes de maladies, donc j'espère que, pourvu que ça dure.
En tout cas, on voit que tu as un beau, parce que vous ne voyez pas, vous nous écoutez, mais il a un très beau suite d'Anderlecht. Donc je ne savais pas que tu étais aussi fan de...
du Standard.
Standard de Liège. Pardon, excuse-moi, Standard. J'ai mal vu. Ton image est brouillée. Depuis les Bahamas, on voit mal les images. Ça passe mal, ton Wi-Fi. C'est bon. Passons. Bon, du coup, comme vous savez, on a eu ce week-end, le week-end de Pâques. D'ailleurs, j'espère que ça a été pour le chocolat tous les deux. Du coup, on n'a pas eu de match ce dimanche, d'où cet enregistrement ce mardi matin. On a eu des matchs le samedi et le lundi. Parce qu'en Italie, n'oubliez pas, c'est toujours le pays du pape. Donc, le dimanche de Pâques, on ne joue pas. On va commencer du coup cette petite série A sur des chapeaux de rond. On va parler tout de suite du premier match de Tudor. Je rappelle le match Lazio-Juve. Premier match de Tudor, première victoire 1-0. But de Maruzic à la 94e, je crois, sur une passe de Guendouzi. Donc, premier match réussi pour notre ami Tudor.
Sceglie ancora Guendouzi. Vuole palla Luis Alberto, Guendouzi, palla sul destro, morbido in mezzo a cercare il colpo di testa, il gol! La Lazio trova il gol del vantaggio e lo trova a tempo scaduto con Maruzic, che ha letto bene in tempo di questa situazione sul secondo palo al 93esimo. Maruzic punisce la Juve.
Mon petit Raphaël, est-ce que tu veux nous parler un peu de cette première Tudor? Qu'est-ce qui a changé par rapport à notre ancien Sarri?
Bah écoute, oui, première de Tudor et première victoire. Et même si elle a été arrachée, on va dire, dans les dernières minutes, moi, je me mouillerais pour dire qu'elle est assez méritée. Alors déjà, il y a pas mal de choses qui ont changé en termes de composition, le système, mais surtout les joueurs. On voit que Guendouzi, Immobile, Luis Alberto commencent sur le banc avec un peu plus de confiance accordée à Kamada, Pedro, Castellanos, notamment. Et même si c'est l'entrant Guendouzi qui fait une bonne passe D pour Maruzic, c'est quand même déjà une patte qu'apporte Tudor à son équipe. Et moi, j'étais content de voir la Lazio gagner, pas seulement parce que je porte pas la Juve dans mon cœur, mais surtout parce que, comme d'habitude, et on le répète, mais on n'est pas anti-Juve, faut pas croire ça, on regarde juste les matchs et on essaye d'être objectif. Et honnêtement, encore une fois, la Juve, c'était catastrophique ce week-end. Juste, si vous avez, bon, je pense pas que vous aurez l'occasion et je vous le souhaite pas, mais regardez le match et regardez qu'à partir de la 60e, par exemple, la Juve ne dépasse plus le milieu de terrain, mais vraiment littéralement. C'est-à-dire qu'ils envoient des longs ballons et après, c'est débrouille-toi Moise Kean, débrouille-toi Chiesa et débrouille-toi Yildiz quand tu rentres, etc. Enfin bref, c'était très très compliqué. Alors, comme d'habitude, ils s'appuient sur une défense avec Bremer, Danilo, qui était assez bon d'ailleurs ce week-end encore, mais c'est beaucoup trop triste, beaucoup trop pauvre. Locatelli, Rabiot, ils jouent quasiment comme des stoppers et ils ont très peu le ballon au pied. Moise Kean, alors qu'il a quand même une bonne vitesse, il joue très 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 loin du but adverse.
Moise Kean qui d'ailleurs sort du placard. Ça fait vraiment qu'on l'avait pas vu jouer. Allegri qui justifie ça en disant que Moise Kean veut absolument jouer l'Euro, donc il faut qu'il joue. Je rappelle, cette année, Moise Kean, zéro but.
Et il en profite parce que Vlahovic est suspendu. On se souvient d'ailleurs qu'il avait pris carton rouge suite à une belle contestation à la 93e, donc encore une belle preuve d'intelligence. Qui montre, moi, je pense vraiment que ça prouve que ça ne va pas beaucoup à la Juve, que ce soit sur le terrain ou même dans les têtes. Un joueur comme Vlahovic, honnêtement, ce n'est pas normal qu'il prenne rouge comme ça. Oui, tu disais, Antoine?
Oui, il y a une nervosité, ça se ressent. D'ailleurs, on va pour terminer sur la Lazio, sur Tudor, il sort aussi du placard Kamada, il commence déjà à faire des gros choix, parce que quand tu as ton premier match à domicile contre la Juve et que tu mets Kamada et Pedro, qui sont des joueurs qui ont été un peu mis de côté, Pedro, je pense, par rapport à son âge, même s'il est rentré souvent, et Kamada qui n'était pas très adapté au système de Sarri, enfin, on sent quand même que. Comme tu dis que Tudor, même si on sait que c'est un entraîneur qui est un peu comme Inzaghi par rapport à un dispositif très énergivore, fait toujours rentrer beaucoup de joueurs à des postes comme justement là on a vu sur des postes de piston, de milieu de terrain, d'attaquant, parce qu'il aime bien donner un second souffle parce qu'il demande beaucoup de travail. On a quand même vu des choix forts. Sinon, toi, Tristan, qu'est-ce que tu penses par exemple de l'intox qu'avait fait Sky Sport en parlant de la formation d'Allegri en disant qu'il était en 4-3-3 avec Cambezo qui était ailier droit? Qu'est-ce que tu en penses depuis l'intox alors qu'on sait très bien qu'il s'était pas du tout.
Ouais, ça m'avait un peu étonné de voir Allegri utiliser Cambiaso en ailier droit. Mais en fait, finalement, on va dire le dispositif, la formation, dès le début du match, ils ont été, comme a dit Raphaël, bousculés par la Lazio. Et donc, alors je ne sais pas si Allegri voulait vraiment faire jouer Cambiaso à ailier droit, mais il a très vite revu ses plans. Et on a vu une équipe qui passait beaucoup plus en bloc bas, alors est-ce qu'on était à 3 derrière ou à 5 en fonction. Mais en fait, moi, je pense qu'Allegri, il a été, c'est comme souvent depuis plusieurs matchs, mais il a dû revoir ses plans très vite, quoi. On a vu dès les premières minutes, son équipe, elle était en grande difficulté et
Malmené, ouais.
malmenée par une superbe équipe romaine, enfin de la Lazio. Et
Devenait...
donc oui, je pense qu'il a dû revoir ses plans. Est-ce qu'il était surpris? J'espère pas, parce que ce serait grave qu'il soit surpris dès les premières minutes surtout qu'il fallait s'attendre à ce que la Lazio débute ce match tambour battant, quoi. Je veux dire, avec un nouveau coach chez toi face à la Juve, c'était vraiment le match. En plus, il était largement à leur portée des hommes de Tudor. Donc voilà, ça fait encore un nouvel échec pour Allegri, enfin une nouvelle défaite ou slash contre-performance. Et ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire que là, on avait une équipe qui, il y a encore quelques semaines, moi j'ai du mal à l'expliquer, mais il y a encore quelques semaines, qui luttait pour le titre avec l'Inter, quoi. Alors est-ce qu'ils allaient être champions? Ça m'aurait étonné, mais là on voit ils peuvent même se faire peur pour la course à la Champions.
En effet, d'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'on a fait un podcast avec Vito et avec Cédric jeudi sur la Juve, sur Allegri. On répond à toutes ces questions, toutes ces interrogations que nous décrit Tristan. Pour terminer, un petit hommage aussi à Allegri qui a mis son petit chouchou Deschilio après 366 jours sans match, titulaire direct contre la Lazio. Et évidemment, il a fait un match pourri, mais ça, on s'en doutait avec notre ami Mattia qui revenait de blessure. Bon, même sans blessure, c'est un peu compliqué pour Deschilio. Tout ça, ça a fait aussi les affaires du Milan, qui s'est imposé du coup à Artemio Franchi 2-1. Raphaël, au-delà du score, du résultat, on a vu un beau jeu collectif. Qu'est-ce que tu as pensé aussi de certains joueurs? On a vu Tchoukweze titulaire parce que Pulisic était fatigué. On a vu le retour de Giroud. On avait aussi la suspension de Théo. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce match au niveau de nos petits joueurs du Milan?
Bah écoute, j'ai bien aimé le petit turnover un peu forcé de Pioli, puisque Théo Hernandez était suspendu, donc il fallait mettre Florenzi. Et Chukwueze, c'était assez intelligent parce qu'il sortait d'un bon match. Il avait marqué au dernier match. Et puis, il y a la Ligue Europa qui arrive. Donc voilà, et il a fait un pas si mauvais match, donc c'était intelligent. Moi, je relèverai encore une fois Rafa et Loftus-Cheek, qui sont pour moi, bon, bien sûr, j'invente rien, mais les deux hommes forts du week-end. Mais avant tout, c'est aussi des joueurs qui te changent un match. Autant l'année dernière, on avait bien sûr Rafa dans cette situation-là en attaque, mais maintenant, on a vraiment Loftus-Cheek qui est apparu milieu central en début de saison et qui maintenant est quasiment numéro 10, parce qu'il se projette énormément. Là, encore une fois, il met un but à 2 mètres de la ligne de but adverse, donc ça veut dire qu'il est vraiment au cœur de la surface de réparation. Et même, c'est un joueur qui, quand il porte la balle sur 30 mètres, il est très très difficile à bouger. Moi, j'ai beaucoup aimé son activité, et puis j'ai encore beaucoup aimé le fait qu'il marque, puisqu'il a beaucoup marqué cette saison. Et j'en suis très satisfait. J'ai beaucoup aimé Reinders aussi, qui était un peu plus discret. Là, il fait une belle passe D à Rafa. Bon, Rafa se l'emmène tout seul, hein, le but, mais c'est lui qui a la dernière passe. Et voilà, après, c'est bien, ça va faire poser Théo. Je crois que Loftus-Cheek est suspendu au prochain.
Oui,
Donc,
je confirme.
voilà.
Contre à domicile, il est suspendu. Il a pris ses 5 biscottes à la fin du match. Bon, je pense que
Oui,
c'est pas
voilà,
trop.
on sait pour. On a compris, on a compris, on a compris. Et il sera, j'espère, très en forme contre la Roma en Coupe d'Europe. Puisque maintenant, bon, la deuxième place, je pense qu'elle est assez acquise. Et maintenant, c'est vraiment la Ligue Europa qui va être un sujet important pour Pioli et qui va, je pense, même décider de son avenir.
D'ailleurs, aussi pour parler un peu de la Fiorentina, Italiano qui a donc confirmé son départ de la Fiorentina en fin de saison et qui, d'ailleurs, on a eu un bel hommage aussi en début de match à Joe Barone. On l'a aussi dans d'autres stades en Italie. C'était assez beau à voir cet hommage. Toi, Tristan, un petit mot sur cette Fiorentina peut-être. Ils ont quand même eu quelques occasions, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Maximilian, il a quand même sorti un match XL. On parle beaucoup de Léo parce qu'il était impressionnant, mais la Fiorentina, offensivement, c'est toujours assez fort.
Ouais, mais c'est toujours le même problème, donc, je trouve, avec la Fiorentina, quoi. Alors là, ils dominent pas outrageusement. Je dirais que les deux équipes, elles ont eu un peu
Leur temps.
chacune leur temps fort. Mais la Fiorentina, on va pas refaire l'histoire, mais il y a tellement de matchs qu'ils doivent gagner. Alors là, je sais pas si elle aurait absolument dû gagner. Mais bon, voilà, il y a encore des occasions manquées. Là, ils tombent sur un bon Maignan. Mais si on prend du recul et on regarde sur la saison, même l'année dernière, la Fiorentina, tu as un peu de réalisme, c'est une équipe qui joue le top 4, quoi. Moi, j'en suis convaincu, t'es top 4, top 5, mais c'est une équipe qui joue en haut, et là, ils se retrouvent. Alors, ils doivent être quoi? Ils sont 9e, 10e, quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est assez frustrant, je pense, pour Italiano, parce que finalement, ça peut le détruire dans ses idées, parce que le football qu'il prône, c'est un jeu de possession, on refait pas l'histoire, mais encore une fois, face à Milan, t'as des situations, tu concrétises pas et tu te retrouves, voilà, avec une défaite qui est pas non plus illogique, parce que Milan, comme on a dit, Milan n'a pas souffert, etc. Mais c'est frustrant, je pense, pour cette équipe qui peut viser bien plus haut.
Comme tu disais, ils sont 10e, ils ont un match en moins avec le fameux malheureusement match qui était
Ouais.
Reporté avec l'Atalanta. D'ailleurs, je me rappelle aussi que si la Fiorentina et l'Atalanta vont loin dans les coupes d'Europe respectives, ce match pourrait se jouer en fin de saison, après les matchs. Et ça peut être une chose d'assez incroyable parce que la Fiorentina, mine de rien, s'ils gagnaient ce match en retard, enfin, ils auraient 3 points de plus, ils seraient déjà au niveau de la Lazio, avec 46 points. Et si l'Atalanta gagnait ce match en retard, ils seraient 5e, donc ils auraient la place de la Roma. Donc ce sera quand même 3 points importants pour deux équipes qui cherchent l'Europe, c'est quand même très 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 serré. Du coup, ça profite au Milan, mais ça profite aussi à Bologne, ce petit revers. Je rappelle, victoire de Bologne 2-0 contre Salerne, qui je pense fait de la figuration. Je ne sais même pas s'ils vont essayer de finir avec un peu de dignité. Ça devient un peu compliqué pour nos amis de Salerne. Et on a encore ce Thiago Motta qui d'ailleurs a même dit à la fin du match qui disait que Bologne faisait du bien au calcio, au foot. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Tristan, avec, je rappelle, un but magnifique d'Orsolini et un but autant magnifique de Selmakers.
E allora Salemakers, sempre sopra Lygoiannis, Salemakers va da solo, calcio col destro, che effetto il destro di Alexis Salemakers, segna un esterno ma segna anche l'altro, 2-0 del Bologna.
Bah, moi, comme je disais, voilà, la Bologne, je veux dire, c'est les semaines se suivent et finalement se ressemblent. Ils ont eu un petit moment un peu compliqué il y a quelques semaines, mais là, ils sont relancés. Après, tu affronterais franchement un adversaire qui, comme tu disais, Anto, moi, à Salernitana, il n'y a pas eu de. Enfin, c'était le on va pas dire le néant pour être gentil, mais on pense pas moins. C'est voilà quoi. Donc, ils ont fait leur tour de force. Ils s'imposent 3-0. Avec deux magnifiques buts, comme tu as dit, d'Orsolini et d'un ancien Milanais, Selmakers. Donc voilà, c'était une victoire qui leur permet quand même de revenir à 2 points de la Juve. Et franchement, moi, je m'y attendais pas forcément de voir non seulement la Juve se faire reprendre, mais Bologne revenir à 2 points surtout. Donc ouais, victoire claire, nette, facile, totale victoire, voilà, totale. Donc franchement, moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est vraiment une équipe qui tourne à merveille. On parle beaucoup des offensives, mais moi, je pense à un Calafiori que je trouve fantastique. Même Motta en a touché 2-3 mots à la fin du match, et je l'ai trouvé assez lucide sur ce qu'il disait, juste sur ce qu'il disait. Donc ouais, c'est une équipe qui tourne à merveille. Et franchement, moi, j'ai envie de les voir continuer, quoi. Alors, je me doute bien que Mota, à mon avis, cet été, c'est ciao. Mais franchement, pas grand-chose à dire, à part qu'ils ont roulé sur une Salernitana, voilà, comme tu as dit, Anto, qui est limite déjà condamnée et qui se voit déjà jouer en Serie B l'année prochaine, quoi.
Oui, pour parler de Motta, tu disais donc, il a dit des beaux mots sur Calafiori, il a dit que c'était un joueur qui savait aussi bien défendre, que sur le côté ou sur le jeu, ce qui est assez vrai. L'Italien fait comme une très bonne saison. 21 ans, je pense que c'est un peu juste peut-être pour la sélection, pour l'Euro, mais déjà, une très très belle saison. Petite stat, parce qu'on aime bien faire des stats, c'est mon ami que je salue, c'est vrai, qui me l'a envoyé. Orsolini, 10 buts en 2023-2024, 11 en 2022-2023. C'est le troisième italien à avoir marqué plus de 10 buts sur deux saisons consécutives pour Bologne en Serie A depuis l'ère des 3 points. Après, Marco Di Vaio et Signori. Donc quand même, Orsolini qui rentre quand même dans un club de grands joueurs de Bologne. Bonne saison d'Orsolini, beaucoup de turnover pour Motta, mais quand il joue, il est quand même assez souvent bon, notre ami Orsolini. On va voir si lui aussi prend le train pour l'Euro. Donc Bologne gagne, Milan gagne, mais par contre la Roma loupe le coche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette petite Roma qui a fait du coup un 0-0 contre un très bon Lecce, à Lecce, au Stadio del Mare. Qu'est-ce que tu en as pensé, Tristan?
Comme tu as dit, Anto, moi, c'est surtout Lecce qui m'a impressionné. Alors, on va revenir sur la Roma, mais je me rappelle d'un match qu'ils ont fait contre l'Inter il y a peut-être un mois de ça, où ils perdent 4-0. Mais franchement, ils font une première période globalement bonne. Et là, limite, ils peuvent. Franchement, ils gagnent ce match, c'est pas volé. Alors, avec Dessié, on refait le monde, mais. Là, ça me fait limite de la peine pour cette équipe parce que je pense qu'il y a tellement moyen d'assurer ils ont tellement moyen d'assurer leur maintien plus aisément que là se retrouver à 4 points de la zone rouge. Franchement, ça fait li c'est limite incompréhensible parce qu'il y a du jeu, ça joue bien, il y a des joueurs de qualité. Donc du coup, comme tu disais, De Rossi, après le match, il y a des déclarations que c'était pas un bon match, mais qu'ils ont été limite un peu surpris par cette équipe de Lecce qui leur ont donné du fil à retordre. Après, rien d'alarmant, hein. Fallait pas s'attendre à ce que De Rossi roule sur la Serie A jusqu'à la J38. Mais oui, je pense, ça, vous me direz les gars, mais hormis le match contre l'Inter et le match retour contre Brighton, j'ai pas vu une Roma qui s'est fait autant bousculer sous De Rossi. Vraiment, on les a retrouvés en grande difficulté. Même si en deuxième période, ils ont eu un peu plus la maîtrise, ça joue un peu mieux. Ils ont eu des occasions, des grosses occasions. Je pense à Oussem Aouar et qu'on a eu une très grosse. Mais voilà, c'était un beau match, franchement, un beau 0-0, comme on dit. Et la Roma, voilà, qui malgré tout prend un point à Lecce. C'est clair, on aurait pu s'attendre à mieux. Mais je pense que De Rossi, voilà, ils ont été surpris, ils ont été bousculés. Et moi, ce que je retiens, c'est pas forcément la mauvaise performance de la Roma qui fait pas non plus un match ignoble, mais franchement, la belle, belle prestation de Lecce plutôt. Parce que franchement, cette équipe, moi, c'est le genre d'équipe, je me dis, putain, mais comment ça se fait qu'ils se retrouvent à se battre pour le maintien, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
On a quand même vu pour Lecce, j'ai regardé la fin du match, donc je ne vais pas non plus être aussi précis que toi, mais j'étais occupé à manger beaucoup de chocolat, je m'excuse. Mais par exemple, il y a beaucoup de déchets au niveau de l'attaque. Quand tu vois Christovic,
Oui.
Banda aussi qui est rentré, qui a loupé une grosse occasion, ou Piccoli ou Sansone, en fait, on sent que peut-être que s'ils avaient un peu plus d'adresse devant, ils pourraient tuer des matchs, parce que les actions, comme tu dis, se les créent. Et ils défendent plutôt pas mal pour Gazic parce qu'il y a quand même des joueurs qui tiennent derrière à peu près le truc. Jandon, qui est un bon latéral de Serie A, il faut le dire, ou le jeune Gallo à gauche. Mais ils se créent des occasions, mais malheureusement, ils n'ont pas l'attaquant à 25 buts. Mais il y a vraiment
Ouais,
beaucoup de
c'est
défauts.
ça.
Et toi, Raphaël, au niveau de la Roma, est-ce que là, un match nul contre Lecce, ça freine un petit peu, l'Europa League, Dybala un peu blessé, est-ce que tu penses que peut-être que l'effet De Rossi commence un peu à s'estomper ou pas d'alarme pour la Roma, Rafa?
Non, pas d'alarme, c'est normal de ne pas tout gagner, comme l'a dit Tristan. Et puis Lecce, c'est une équipe qui est sympa, donc c'était pas non plus Salerne en face. Moi, j'ai vraiment envie de les voir, enfin, de les juger sur leur double confrontation contre Milan, où j'ai pas envie de dire qu'ils jouent aussi leur saison, mais s'ils arrivent à s'en sortir en Ligue Europa et qu'ils sont entre la 7e et 5e place. En Serie A, ce sera une saison, enfin un retour de saison assez réussi, puisqu'il faut voir aussi où ils étaient il y a quelques mois. Hein. Là, on parle d'une Roma, on les voit quasi dans le top 3, mais il y a quelques mois, ils n'étaient pas à cette place-là. Ensuite, voilà, c'est des joueurs qui sont cette année un peu irréguliers. On le sait, Lukaku, ce n'est pas un joueur qui marque à chaque match comme il a pu le faire par le passé. Dybala, il est encore un petit peu. Encore un petit peu, voilà, il est plus aussi décisif qu'avant. Et la preuve, c'est qu'il n'était pas titulaire, c'était Baldanzi qui était titulaire. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé Lecce, surtout j'ai plutôt envie de les mettre en lumière eux que parler de la Roma, puisque Lecce s'est créé énormément d'occasions et ils auraient pu gagner en toute fin de match avec Houdin qui tape la barre, mais c'est surtout eux que j'avais envie de mettre en avant.
Lecce qu'on va retrouver du coup ce week-end contre le Milan à San Siro. On va voir si là ils vont peut-être s'imposer. On va voir.
Je
On
crois
va
le
voir.
match, le match, je crois le match est à Lecce, hein, il me semble, si je dis
Non,
pas de bêtises.
c'est à San Siro. Je crois que c'est à
Parce
San
qu'il me
Siro.
semblait que Milan jouait deux matchs à l'extérieur. Ah oui, c'est autant pour moi, désolé.
C'est
Il me
samedi à
semblait que
15h,
Milan.
si je ne me trompe
Ouais,
pas.
c'est ça.
Bon, voilà pour ce petit match de la Roma. On va passer à un autre sujet qui fâche. On va commencer déjà à saluer nos supporters napolitains. En plus, c'était pas que c'est important, pas qu'à Naples. Malheureusement, je pense que la pastilla napoletana, un super dessert que je vous conseille, a dû être un petit peu amer ce week-end avec cette défaite à domicile de Naples, 0-3 contre l'Atalanta. Difficile, Raphaël.
Difficile et triste, oui, triste parce que quand tu es champion en titre, t'as pas le droit de prendre des volées comme ça à domicile. 3-0 contre une Atalanta qui, voilà, qui c'est pas l'Inter non plus. Pour moi, c'est surtout assez triste pour Naples. C'était une victoire assez méritée. Hein. Naples, pour ceux qui ont vu le match, je vais pas décrire les buts, mais. Les deux premiers buts, pour moi, c'est des erreurs défensives que tu n'as pas le droit de faire à ce niveau-là. Le premier, il y a une passivité défensive qui est absolument dingue. Et le deuxième, Scamacca, il a tout le temps de tirer alors qu'il est dans la surface adverse. Personne ne monte dessus, on essaye juste de le bloquer. Bah, lui, il frappe, il marque. Et en plus de ça, l'Atalanta touche le poteau en tout début de match. Donc ça aurait pu être pire. Faut quand même souligner que Kvara était absent. Et que ça change quand même la donne. Mais Osimhen est loin d'être le Victor Osimhen qu'on a connu l'année dernière où il tout rentrait. L'année dernière, tout rentrait. Là, cette année, c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup s'énerver sur le terrain quand on regarde les matchs. Il s'énerve contre lui, il s'énerve contre les adversaires. Alors, moi, je le vois bien partir cet été parce qu'il doit en avoir marre de l'environnement, même s'il a re-signé, il me semble. Je sais pas, j'ai l'impression que comme à la Juve, il y a énormément de nervosité, énormément de joueurs qui balbutient leur jeu. Et voilà, moi je voulais surtout mettre en avant, comme tout à l'heure pour Lecce, l'Atalanta, puisque c'est une belle équipe et avec un très très bon joueur, Cope Meiners, qui a encore marqué, qui s'arrête quasi jamais de marquer. C'est le deuxième milieu de terrain le plus prolifique. Cette saison après Bellingham, il est quand même à 11 buts, Cope Meiners, ce qui est vraiment pas rien. Du coup, ça place l'Atalanta à une belle sixième place, ce qu'on attend d'elle. Et surtout, ce qui place Naples à une huitième place, très très loin de son standing.
Koopmeiners, Ruggeri lo aspetta, lo serve, Koopmeiners incrocia! Koopmeiners 3-0 Atalanta al Maradona, entra dalla panchina e segna ancora tu Koopmeiners.
Tristan, dis-moi un truc, si je regarde les stats, regarde, je suis un supporter lambda de la Serie A, regarde les stats de ce match-là. Naples, 20 tirs à 12 contre Atalanta, 6 tirs cadrés chacun. Naples, possession 62% contre 38, passe, Naples, 602 passes, l'Atalanta 382. Pression de passe, Naples 86, Atalanta 82. Plus de fautes pour l'Atalanta. Autant de cartons jaunes. Autant d'enjeux. Quasiment pareil sur les corners. Comment est-ce que tu expliques finalement? C'est quoi? C'est l'Atalanta qui est trop efficace? C'est Naples qui n'est pas assez efficace? Comment tu peux expliquer? Est-ce que il y a quand même des stats. Je ne sais pas si vous avez des stats au fil, mais il y a quand même des stats assez trompeuses sur ce match peut-être. 3-0.
Moi, c'est ce que je me suis dit devant ce que j'étais bien évidemment devant le match, mais il y avait ce côté un peu parce que là, le Napoli n'est pas ridicule dans le jeu, c'est pas ils sont pas à la ramasse comme tu disais Anto, quoi. Ils prennent 3-0, c'est vrai que si tu regardes pas le match, tu te dis ok, c'est une démonstration de l'Atalanta, mais en vérité, Naples, comme tu as dit, fait le jeu. Mais moi, je trouve, tu en as un peu parlé, Raph, juste avant, je veux dire, moi, il y a une absence, enfin, défensivement, c'est le chaos, quoi. C'est-à-dire que dès que l'Atalanta appuyait un peu sur l'accélérateur, c'était la panique totale, quoi. C'était vraiment assez saisissant. Et il y a une absence, moi, enfin, un départ, moi, que je ne pensais pas qu'elle allait faire autant de mal à ce Napoli, c'était Min Jae. Parce que là, en fait, tu n'as pas de défenseur. Tu avais Min Jae, tu avais Koulibaly avant, tu sais, des tauliers, quoi, des mecs qui sont capables de recadrer un peu tout le monde. Et là, tu as l'impression que c'est en défense, c'est bon, allez, les gars. Chacun se démerde, on fait un peu comme on peut, on se débrouille. Et puis en fait, dès que l'Atalanta, voilà, comme je disais, accélérait un peu, bah, c'était la panique totale. Et puis voilà, je pense que Naples paye sur tout ça, quoi. C'est-à-dire que tu prends 3-0, tu prends deux buts, tu es mené 2-0 à la pause. Là, pour revenir dans le match, surtout dans la spirale dans laquelle tu es, c'était peine perdue, même si il n'y a pas des mauvaises choses. Je trouve que, par exemple, Ahmed Junior Traoré, c'est plutôt bien adapté, qui s'impose un peu, qui montre des choses assez intéressantes. Puis voilà, comme on va le rappeler, quoi. Naples, ça change 3 fois d'entraîneur. Depuis début de saison. C'est-à-dire, tu peux pas avoir continuité avec ça. Donc déjà, le groupe, même si Calzona n'est pas le responsable, mais voilà, quoi, il fait avec ce qu'il a, il fait avec ce qu'il peut, avec le temps qu'il a, parce que je pense qu'il sera pas reconduit l'année prochaine. Donc voilà, c'est un peu un beau bordel. Et puis, face à une Atalanta qui, je trouve, toujours aussi forte tactiquement. C'est-à-dire que t'as une gestion des temps forts, temps faibles, c'est impressionnant, je trouve. Moi, je me rappelle d'un match face à Milan. Il y en a eu plusieurs, mais les deux matchs face à Milan, même s'il y a eu la fameuse erreur en Coupe d'Italie, l'erreur d'arbitrage, mais c'est une équipe qui, malheureusement, n'arrive pas à avoir assez de continuité. Mais quand elle est dans un grand, grand jour ou grand soir, bah franchement, elle est difficilement manœuvrable. Elle est difficilement. C'est difficile de la mettre en difficulté. Et franchement, moi, c'est surtout ce que je retiens de ce match, comme disait Raph, c'est surtout la super prestation de l'Atalanta, tactique, même si ils n'ont pas dominé, mais franchement, ils maîtrisent. Et puis quand tu joues face à voilà, un Naples aussi faible, bah, t'as pas besoin de trop forcer, quoi.
Pour reparler de Calzona, c'est quand même compliqué aussi pour l'entraîneur peut-être de préparer ce genre de
Ouais.
match. Et, quand tu es sélectionneur en même temps d'une équipe, donc il n'était du coup pas là pendant la trêve. Donc c'est quand même un petit peu aussi un contexte, comme tu as dit, un peu compliqué. Alors pour les autres matchs, parce qu'on va survoler les autres matchs très rapidement. Genoa Frosinone un partout. Torino Monza 1-0 pour le Torino. On a eu un petit Cagliari Vérone un partout. Sassuolo Udinese un partout. Ah, petite question. On va voir si vous connaissez la réponse. Buteur Florian Thauvin dans ce match. Est-ce que vous savez, Florian Thauvin, il est impliqué en pourcentage, dans combien de pourcents des buts cette année 2024 de l'Udinese?
En 2024, l'année civile.
L'année civile, assist et but. Quel pourcentage il a d'implication dans assist et but cette année?
Alors, il me semble qu'il a mis 5 buts cette saison.
Oui.
Donc, cette saison, moi, je dirais un bon. Allez, 55%.
Et toi, Raphaël?
Moi, j'ai vu la stat, donc
Ah.
je vais tricher si je donne
C'est
le bon.
40%. C'est énorme. C'est beaucoup. Bon, après, c'est sûr, Lunez ne marque pas non plus 50 000 buts, mais c'est
Oui,
quand
c'est
même
ça.
une stat qu'il faut souligner pour notre ami Flotov, comme il aime s'appeler, et son plus grand fan d'ailleurs, c'est Nicolas Wagner. On le salue, lui qui n'est pas là. On va parler un peu de l'Inter quand même avant de partir. Même si, j'ai envie de dire, la routine, ça gagne. 25e victoire cette saison, 2-0, encore un clean sheet, ça déroule. On en parle ou pas? Parce que Cédric n'est pas là. Moi, quand il n'est pas là, j'ai du mal à parler de l'Inter, je suis honnête. Je sais pas, ça me brusque. On va en parler, mais très 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 brièvement. Vas-y, Raphaël. Très brièvement.
Oui, bah on peut quand même dire que c'est une équipe qui tient son rang, qui ne va pas faire de fausse route sur la fin de saison, mais ça, personne n'en doutait, à part certains interistes qui ne veulent pas se porter la poisse. Oui, petite chose qui m'a fait sourire hier, c'est de voir Hakan Çalhanoğlu, le meilleur regista du monde autoproclamé, qui joue chaussettes baissées façon Francesco Totti, puisque c'est tellement un joueur extraordinaire qu'il faut aussi se montrer différent physiquement. Donc voilà, petite dédicace à notre joueur turc préféré de Serie A.
Inter, du coup, 30 matchs, 25 victoires. Et hier, on a eu un petit événement quand même. Inzaghi a quand même fêté sa 100e victoire avec l'Inter. C'est quand même pas mal. 150 matchs, 100 victoires, 25 défaites, 25 nuls. Un 2-17 de ratio de points en Serie A, c'est quand même pas mal pour l'ami Simone Tristan.
Ouais, puis comme tu disais, c'est exceptionnel parce que moi, je m'en. En fait, moi, ce que je trouve impressionnant, enfin impressionnant, c'est qu'il y a 1 an et demi, on se rappelle, le mec était annoncé, enfin,
Dehors.
il devait se faire dégager, quoi. Et comment il a su inverser la tendance, c'est assez impressionnant. En toute objectivité, moi, je m'attendais pas à avoir une Inter, on va dire, si on prend, on va post-janvier 2023. Atteindre ce niveau-là en si peu de temps, même s'il y avait de la qualité, c'est pas, mais le niveau, puis là, face à Empoli, voilà, victoire. Même si Empoli a montré de belles choses, franchement, on va pas mentir, ils ont eu, on va entre guillemets, une belle adversité, même si ça reste Empoli, donc forcément, quand t'es l'Inter, comme je dis, tu décides d'un peu de jouer au ballon, puis c'est fini, quoi, il n'y a plus rien en face. Mais en tant que Rossonero, tu me disais, purée, peut-être ça peut être un match piège. Pourquoi pas les mettre dans le doute. Et finalement, non, il n'y a rien. Puis comme moi, ce que j'ai peur en tant que supporter milanais du Milan, c'est le titre, le Scudetto qu'il s'offre lors du derby dans 2 semaines. Ce qui est possible.
On va voir ça. Faut pas se. Pas... Il a fait ça avec Janine, on avait gagné 2-1 avec un but de Kaka magnifique d'ailleurs.
Oui.
Mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs. J'espère qu'il y aura un peu de
Oui, de dignité, quoi.
d'orgueil, un peu de dignité, parce que vraiment ça va, quoi. Faut pas non plus. Après, il faut quand même. J'ai envie de dire quand même, les gars, profitons quand même de ça avec l'Inter, parce qu'on sait même pas si
Ouais.
le 20 mai, ils vont pas changer de propriétaire. Donc profitons, parce que peut-être qu'il y aura un petit changement dans ce petit club. Chinois interiste. Bon, on a déjà trop parlé de l'Inter. On va arrêter, les gars. Je rappelle qu'on est 3 Milanais de cœur. Milaniste, pas Milanais, Milaniste de cœur. Donc je pense qu'on en a parlé assez. Déjà qu'on en a parlé, déjà c'était sympa. On va arrêter là. On va passer au prono.
Pseudo tifosi, gente che vuole male al Siena. Gufi, state a casa.
Sans transition, du coup, on va passer par le vrai club de Milan. Milan Lecce, samedi 15h. Prono, mon petit Tristan.
Milan Lecce, bon, normalement ça devrait le faire. Allez, 2-0 Milan.
Rafa.
Un 1-0 dans la douleur.
Je te jure. 1-0 dans la douleur. Bon, samedi, 18h. D'ailleurs, vous savez pourquoi on joue toujours les samedis à 18h ou à 18h les derbies de Rome? Roma Lazio? Est-ce que vous le savez pourquoi?
Les problèmes de supporters, non? Les problèmes de
En fait, c'est
tifosi.
trop chaud, donc on ne peut pas jouer le soir ce derby de Rome, c'est dommage. D'ailleurs, dédicace à Nicolas Wagner, qui est un peu comme on est un peu pareil, on est un peu réac, un peu old school. Ça me manque, moi, les derbies à 15h. Merde. C'était quand même bien, les derbies à 15h, à la grande époque.
Mais il y avait le match aller, c'était pas un dimanche à 15 h? Ah non, c'était à 18 h. Non, oui, c'était un
Quasiment tous
dimanche à 18 h.
depuis quelques années, mais moi, le 15h, je trouve que
Qui
c'était
était une
tout à
belle purge
Rome,
en plus, le match aller.
au printemps à Rome. Du coup, Roma Lazio, pronostic, Rafa. Pur
Compliqué.
prono, hein.
Ouais, parce que la Lazio joue ce soir, mardi, à Turin contre la Juve en coupe. Donc ils auront eu la Juve 2 fois plus la Roma en 7 jours. Je les vois accrocher un nul contre la Roma, donc un partout.
Tristan.
Moi, ce que j'espère, c'est surtout plus de spectacle le match aller. Mais je vais dire un 1-0 Lazio.
Là, il
1-0 Lazio.
n'y a plus Mourinho et Doré aussi, je pense que
Ouais.
on l'a montré. Moi, je pense victoire 2-1 de la Roma et un but en fin de match avec un des Rossi qui court sous la Kurva. Enfin, j'ai envie de voir du football footix en ce moment. Vous voyez, j'ai envie d'être nostalgique. Je
Ouais.
veux voir ce genre de choses. Je suis comme ça en ce moment-là. J'ai passé 30 ans, là, j'ai besoin de m'accrocher au passé. Je suis comme ça. Autre dernier match qu'on va pronostiquer, parce que vous avez compris, on n'est pas sponsorisé par Betclic, on peut tous les faire quand même. Match très chaud, grosse concurrence entre les Courvées, entre les clubs, le Juventus Fiorentina du dimanche. Tristan.
Ouais, je me dis qu'à un moment donné que Allegri va quand même un peu
Il va gagner.
relancer sa machine. Ouais. Donc après la Fiorentina, allez 2-1 Juve.
Allez, allez. Bon, Rafa, qu'est-ce que tu penses, toi?
Et ben moi je vais prendre le parti inverse en me disant que la Juve a encore une fois ce match en Copa ce mardi soir et que la Juve n'est pas bien. Donc allez, on va dire 2-1 Fiorentina.
Et pour ma part, je verrai bien. Non, moi, je pense à un bon match nul, un bon 2-2, bien corsé dans ce match entre la Juve et la Fiorentina. Bon, les amis, c'était un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Bon, je sais que Nos auditeurs et surtout nos auditrices seront très déçus de ne pas avoir pu avoir Cédric ce matin à la présentation, mais bon, il sera bientôt de retour, ne vous inquiétez pas. Et ben, je vous souhaite une bonne semaine, chers amis. Du coup, on a de la Copa cette semaine. Bon, je regardais, hein, c'est toujours intéressant. Et en plus, c'est diffusé en clair sur l'équipe. Bon, profitez, c'est pas souvent le cas.
Toi, t'as de la Copa à ton restaurant
Ouais.
ou pas, Antoine?
Ouais, j'adore la Copa. C'est très très bon, la Copa Piacentina, c'est très très bon. Je t'en servirai quand tu viendras déguster tous tes pommerolles et tous tes nuits Saint-Georges au restaurant, comme tu aimes faire une fois par
Avec
mois.
plaisir, avec plaisir.
Mais c'est très bon la Copa. On se fera un podcast charcuterie, région, par club, ça peut être très sympa, même si la tendance est au véganisme, on essaiera de le faire un jour. Je sais pas si vous voulez participer, mais ça peut être très sympa. Voilà, je lance une bouteille à la mer, faisons un podcast italienne par rapport au club. Allez. Pourquoi pas? Ce foot pourrait le faire. Vous serez capable de ce foot, il me
Oui,
semble.
il faudrait que je regarde. Si ça se trouve, il a déjà été fait. Alors, un
C'est
article qui date de
très possible.
2013 sur le fin fond du site internet, franchement, c'est pas impossible.
C'est ça, avec un Rick Maggiore et un Andrea Chasi
Ouais,
à moitié beurré au Lambrusco, je vois très bien
c'est possible, oui.
le problème. Bon, ciao la gratte, je vous salue. Merci à tous. Merci pour vos écoutes toujours. Hein, toujours top. Vous nous suivez toujours sur Twitter, partout. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao les gars.
Ciao.
Ciao.